des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. La littérature est morte, entend-on dire ces temps-ci, elle n'intéresserait plus qu'une poignée de marginaux qui, tels les premiers chrétiens, pensent qu'il est temps de filer dans les catacombes pour s'adonner à son culte, à l'abri des accusations d'élitisme ou de ringardise. Seul ne compterait plus en effet que l'image, l'instantané, l'éphémère, le temps court, alors que celle-ci, la littérature, exige, elle, le temps long et se place plutôt du côté de ce qui reste. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Oui, la littérature est morte, voilà ce qu'on entend, et on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était peut-être le moment ou jamais d'interroger ces rumeurs avec deux auteurs spécialistes de la question. L'un, William Marx, parce qu'il publie une somme sur les attaques qui sont tombées sur le dos de la littérature depuis au moins l'Antiquité. L'autre, Olivier Cadiot, parce qu'il publie une histoire de la littérature récente, enfin, c'est ce que dit le titre, et c'est sûrement plus compliqué que cela. Le temps des écrivains a donc réuni deux auteurs au chevet d'une littérature prétendue moribonde. Bonjour William Marx.
Bonjour Christophe.
Alors vous êtes professeur d'université à Paris 10.
Oui, Paris 10, voilà. Nanterre, Paris-Ouest, Nanterre.
Paris-Ouest, Nanterre. Vous publiez aux éditions de Minuit un très beau livre, très enlevé, très précis aussi, entre l'essai, l'enquête et le récit intitulé « La haine de la littérature ». Une somme sur un procès, celui que les hommes ont fait à la littérature depuis exactement 2500 ans. Un procès dont vous fournissez toutes les pièces, de Platon à Nicolas Sarkozy, dites-vous, nous donnant à parcourir dans ce petit livre bien renseigné et bien tourné toutes les raisons qui ont conduit à bannir le poète de la cité ou à brûler ses livres. Preuve que la littérature est aussi et peut-être d'abord un objet politique, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu, William Marx, en parlant de haine, comme le dit votre titre ?
D'abord, l'expression n'est pas de moi, elle est de Flaubert, qui arrive en épigraphe, et c'est Zola qui raconte comment Flaubert, allongé dans son fauteuil, s'exclamait, les yeux au ciel, la haine de la littérature, pour exprimer cette haine des bourgeois.
Oui, il dit, il n'avait que ce mot-là à la bouche, hein.
Exactement. Voilà. C'était vraiment son refrain. Alors, il est certain que l'ensemble des expressions que je recense à l'intérieur du livre ne relève pas à proprement parler de la haine. J'ai trouvé l'expression trop belle pour ne pas l'utiliser. Et puis, je crois qu'elle situe bien aussi ma propre humeur aussi pour comme défense de la littérature, parce que je veux aussi prendre la défense de la littérature contre cette haine. Et on pourrait voir aussi à l'inverse ce livre comme une déclaration d'amour à la littérature. C'est aussi une manière de le voir. Donc, il faut voir aussi l'envers de la haine. Mais il est vrai que l'ensemble des arguments qui ont été développés ne relèvent pas la haine et sont plutôt parfois des arguments extrêmement rationnels, extrêmement philosophiques, qui sont développés contre la littérature depuis l'Antiquité, exactement.
Bonjour Olivier Cadiot.
Bonjour.
Vous êtes à ma droite, en face de William Marx. Vous êtes tous les deux réunis pour parler de cette littérature, au chevet de la littérature, je disais. On vous connaît comme poète, comme romancier, comme auteur pour le théâtre, pour l'opéra aussi, comme traducteur de textes bibliques, de Gertrude Stein aussi, hein, que vous avez beaucoup pratiqué. Vous êtes l'auteur de L'art poétique, de Retour définitif et durable de l'être aimé, entre autres, et vous publiez, chez POL toujours, Histoire de la littérature récente, tome 1, précisez-vous, donc il y aura une suite.
Oui, je suis dans le tome 2, justement.
Déjà.
On pourra en parler tout de suite du tome 2 pour gagner du temps.
Allez-y, je reviendrai au tome 1 ensuite.
Peut-être que William Marx va m'aider à faire le tome 2, surtout. J'attends cette émission.
Nous allons le faire ensemble.
On commence par le tome 1, parce que c'est plus pédagogique. Il s'agit d'être pédagogique pour parler de littérature. A priori, c'est une histoire, dit le titre, mais un titre qui est immédiatement démenti par la quatrième de couverture, qui nous parle, alors c'est toujours lapidaire, comme chez POL, une méthode révolutionnaire pour apprendre à écrire en lisant. Sauf que quand on cède aux sirènes de cette méthode révolutionnaire, comme vous dites, pour embrasser la carrière, eh bien on s'aperçoit qu'il s'agit de tout autre chose. On est entre la nécrologie, l'exercice nécrologique de la littérature, et la tentative de résurrection de cette littérature. Entre le questionnement sur votre activité à vous d'écrivain, et puis l'esquisse de ce que serait une littérature contemporaine bien vivante. Il s'agit de 61 très courts chapitres, Il y a de la théorie, hein, vous citez Walter Benjamin, Agamben, des anciens, Proust.
Un tout petit peu. Hein.
Un tout petit peu.
Je cite pas, c'est une histoire sans date et sans nom quand même.
Il y a quand même Proust, vous parlez de la recherche.
Un tout petit peu.
Hein, quand même, ils sont là, on les sent là.
On les sent là, voilà. C'est ça, la culture est cachée.
Là.
On les sent là, j'espère, ça c'est formidable si on les sent.
Et puis il y a beaucoup de réflexions personnelles, de récits sur ce qu'est le fait de vivre dans la littérature à une époque où on considère celle-ci comme obsolète. Le livre part d'ailleurs d'un jugement porté par Philip Roth qui déclarait que, je le cite, « dans 30 ans, sinon avant, il y aura en Amérique autant de lecteurs de vraie littérature qu'il y a aujourd'hui de lecteurs de poésie en latin. » Et vous dites, vous, ça ne peut plus durer, cette histoire de fin. Est-ce que votre livre, Olivier Cadieux, est là pour nous dire que c'est pas parce que Philip Roth a décidé d'arrêter d'écrire que la littérature, elle, doit s'arrêter avec lui ?
Oui, non, mais c'est vrai que je traite un peu l'affaire par l'absurde. C'est-à-dire que je crois au fond que ce débat, même si justement on parlera du livre de William Marx, et c'est un livre extrêmement passionnant parce que justement on apprend que cette bataille, cette guerre énorme, hein, cette guerre absolument incroyable, dure depuis l'Antiquité, bien sûr. Et ça fait beaucoup de bien de se rappeler carrément la violence extraordinaire. Enfin, c'est ce que ce livre retrace. Non, moi, ce qui a été un déclic, c'est qu'au fond, je me suis rendu compte que j'avais très peur des déclinistes, hein, du déclinisme. Enfin, j'étais très opposé au déclinisme, mais que j'étais moi-même décliniste aussi. Je me suis rendu compte, un beau matin, je passais mon temps à gémir aussi, en disant, aïe, 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 c'est épouvantable. La rentrée littéraire, c'est pire que l'année dernière. Et on est là à faire des... Il y a un cœur de pleureuse. Dans lequel, tout d'un coup, je me suis dit, mais je fais partie des pleureuses. Donc, je me suis dit...
Pire, c'est-à-dire quoi ?
Pire que...
qualité ou de...
Oui, alors justement, ce sera le sujet du... De quoi, d'ailleurs ? Alors, il y aura une littérature, soi-disant, qui sera en train de mourir, mais laquelle ? Ce serait parce qu'il y en a plusieurs. Et j'en ai eu un peu assez, au fond, de cette idée qu'il fallait que je la défende aussi. Si moi-même, j'ai peur qu'elle disparaisse... Je suis moi-même gagné par ce déclinisme ambiant. Je ne vais pas non plus prendre une position. Je me souviens de Michel Deuilly qui disait, c'était très beau, nous sommes, les poètes sont dans une réserve d'Indiens. Je me suis dit, bon, c'est une belle idée. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire un livre de défense et illustration de la littérature contemporaine. Je vais essayer de m'approcher très très près du problème et prendre... Philip Roth, je dis très bien, alors à ce moment-là, de fonctionner vers le vers latin. C'est-à-dire, je pousse, si vous voulez, par l'absurde, la démonstration. Et c'est vrai que c'est pas un essai. Enfin, c'est un essai qui, au bout d'un moment, s'approchant si près de la littérature, finit par en faire, je dirais à la limite, sans le vouloir. C'est-à-dire que c'est quand même un livre d'écriture. C'est pas un roman, bien sûr, mais ces petits paragraphes, ces chapitres sont comme... On pourrait dire aussi c'est des poèmes en prose, si on voulait. Voilà. Mais...
Des petites lettres, des missives.
Des lettres, ouais. Etc. Alors,
cela dit, vous dites, faisons des poèmes latins, vous êtes beaucoup plus critique ou sceptique. Hein. C'est idiot de devenir un poète latin au moment où l'on abandonne les langues anciennes. C'est vrai, William Marx, on est quand même là-dedans, dans l'abandon des langues anciennes. Donc,
oui, il faut s'amuser.
Ça va être compliqué, quand même.
Ça va être un peu difficile de faire des poèmes latins. Oui, oui, c'est vrai. Non, je voulais, au fond, ne pas prendre position. C'est un paradoxe. C'est-à-dire, ce sujet m'occupe tellement, cette guerre dont on parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'utiliser les outils très précis de William Marx pour essayer de voir ce que serait une histoire réelle de la littérature récente depuis 20-30 ans. Et ça pourrait être passionnant.
Qu'est-ce que vous en pensez, William Marx?
Ça, ce serait intéressant de faire ça.
Ben, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Olivier Cadieux. Effectivement, on assiste depuis une vingtaine, trentaine d'années à ce qu'on pourrait appeler une sorte de changement de paradigme de la littérature. Et ce changement de paradigme, c'est-à-dire cette manière nouvelle de concevoir les œuvres, leur statut dans la cité, est pris par certains comme une mort de la littérature. Alors que c'est une métamorphose, réellement. Mais la littérature, enfin, ce que nous appelons rétrospective, effectivement, il faut bien le dire, littérature, le terme lui-même est assez récent, il ne date que de 2 siècles. En fait, ce terme lui-même, nous l'appelons rétrospectivement à Sophocle, à Homère, mais ni Sophocle, ni Homère, ni Villon, ni Ronsard ne faisaient de la littérature à proprement parler. Donc en fait, nous ne sommes en train de vivre depuis 2500 ans qu'une série successive de métamorphoses, et nous sommes dans un changement de paradigme, comme il y en a eu des tonnes depuis des millénaires. Donc il n'y a pas d'inquiétude nécessairement à avoir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des moments de crise particuliers et nous sommes peut-être dans l'un de ces moments de crise.
Oui, mais c'est parce que peut-être qu'on a assisté quand même à quelque chose d'extraordinaire, c'est au regain d'une puissance de la littérature énorme. Parce qu'au fond, ce que vous racontez, c'est que le combat entre la philosophie, la politique, la littérature, toujours exclue du champ comme ça, elle a à un moment donné, dans les années 70, 80, ça sera... La littérature je dis pas dominait, mais avait été au plein milieu du champ entre la philosophie, entre la psychanalyse, entre la politique.
C'est-à-dire que faire la littérature politique, bien sûr.
Je dirais même que faire la littérature, pour un jeune homme comme moi qui commence à écrire en, je sais pas, fin 70, 80, au début 80, la littérature est l'endroit absolu de l'engagement politique. Donc c'est tout à fait normal qu'après, il y ait, comme vous dites, une redescente énorme.
Quand William Marx parle de crise, est-ce que vous êtes d'accord?
Je ne sais pas.
Vous entendez quoi d'ailleurs par crise?
Ouais,
crise, c'est
pas.
Aussi le moment du jugement. Donc...
Voilà, c'est un moment de transformation. Alors, pour Aristote, c'est le moment où on ne sait pas si le malade va en sortir ou non. Il ne s'agit pas de cela. Je prends ce thème simplement comme un moment de transformation avec des résistances et puis des forces qui veulent aller de l'avant. Mais même dans les années 60-70, c'est sûr qu'il y a eu un formidable essor d'une littérature d'avant-garde. Mais avec Tel quel, par exemple. Mais c'est le nouveau roman. Mais en même temps, c'est le moment qui consiste en l'essor des sciences humaines énormes. Et j'ai entendu encore récemment des témoignages de gens qui ont vécu ces époques-là et qui disaient, à l'époque, la grande chose à faire, c'était se lancer dans des sciences humaines, c'est-à-dire devenir anthropologue, devenir sociologue, etc.
Sémiologue.
Et lorsqu'on disait, je veux faire de la littérature, ça paraissait un peu rétrograde. Même Barthes a eu du mal à passer,
Il
le cap. Il ne désirait que cela.
Il désirait que ça.
Donc la littérature d'avant-garde, en fait, n'a fait qu'intégrer une sorte d'exigence théorique qui était celle des sciences humaines, et ça l'a transformé de la taille. Donc c'était une sorte de manière de répondre aussi pour cette littérature d'avant-garde à une exigence d'une plus grande, entre guillemets, scientificité.
Oui, mais alors, ce qui est amusant, c'est d'observer,
par exemple,
juste une petite observation comme ça, de voir comment des gens qui ont pu apparaître comme, sans citer de nom, mais il y a une vingtaine d'années, comme des expérimentateurs prodigieux.
Vous pouvez, hein.
Non, mais je ne vais pas distribuer des bons points ou des mauvais.
Qu'on comprenne bien.
Non, mais disons que. On va dire, pour aller vite, que comment se fait-il historiquement que des gens qui ont été considérés comme des expérimentateurs deviennent d'un coup, et ça, pour reprendre un outil de votre livre, deviennent tout d'un coup perçus par le public ou aussi par la critique comme élitistes. C'est-à-dire comment, ça c'est une belle histoire aussi de la littérature récente, une sorte d'inversion des valeurs. Comment des gens qui ont inventé le texte, pour qui, justement pour aller dans le sens de Barthes, le langage, comme... Enfin si, il y a une mise de la culture récemment, a dit cette phrase énorme, précédent a dit « la culture est une arme de destruction massive ». C'est une phrase énorme, non? C'est une vraie phrase.
Oui, ça va être transformé en...
Bon, alors, il y a peut-être un retour d'un coup, comme la culture...
C'est ce qu'a dit aussi un ministre turc. Je vous le confie.
Non, mais ça veut dire, si on observe, par exemple, cet extraordinaire changement de perception, que l'avant-garde, pour reprendre votre mot, à un moment, peut apparaître comme tout à coup d'arrière-garde.
C'est extraordinaire. Mais c'était qui l'avant-garde, en fait?
Je prends quelques noms. Guyotat, des gens extraordinaires qui écrivent aujourd'hui, ou Christian Prigent, des grands inventeurs de langue, tout d'un coup, peuvent apparaître, je dis pas qu'ils apparaissent, comme anciens, mais qui peuvent être perçus comme... J'ai entendu un journaliste dire une fois, à la télé, dire « l'illisible, c'est kitsch ».
Oui, vous en parlez, d'ailleurs.
Ça m'a énormément amusé, qu'on puisse, à un moment donné... Bon, alors, ce serait intéressant de faire une histoire et littérature récente de tout ça, avec vos outils, ce serait passionnant, peut-être que vous allez le faire.
Je l'ai fait en partie. En fait, il y a 10 ans, j'avais écrit un livre qui était L'adieu à la littérature.
L'adieu à la littérature,
et qui parlait précisément de la façon dont les écrivains avaient intégré eux-mêmes cette dévalorisation de l'acte littéraire dans leur propre
bataille. Paul Valéry, par exemple, Gombrowicz.
C'était eux-mêmes avaient même abandonné directement la littérature comme Rimbaud.
Alors, qu'est-ce qui explique quand même, je voudrais vous poser la question, que tous les deux, vous ayez décidé d'écrire sur la littérature, l'un pour recenser les attaques dont elle a fait et dont elle fait encore peut-être l'objet, l'autre pour l'ausculter sur fond de rumeurs de maladies graves qui menaceraient sa survie. Est-ce qu'elle est à ce point devenue un sujet, la littérature, Olivier Cadio?
En tout cas, mon parti pris, c'est justement d'en faire, en faisant un sujet, et d'en faire même de me comporter justement, non pas comme un essayiste en l'occurrence, de ne pas devenir philosophe que je ne suis pas, ou penseur ou critique, mais de me comporter comme écrivain, avec des moyens d'écriture, simplement, en faire le sujet central, c'est ça qui était excitant dans ce livre.
Oui, mais en quoi, pourquoi en faire le sujet central? Vous êtes inquiet quand même sur cette mort de la littérature, même si vous en jouez, ça vous inquiète quand même?
J'ai l'impression que, curieusement, on accuse la littérature d'être souvent, ceux qui veulent la détestent, disent elle est enfermée en elle-même, le grand truc depuis Mallarmé, c'est on dit voilà, ils sont... Le poète est coincé dans sa tour d'ivoire, enfermé, etc. Ça. Et donc j'ai envie juste de soigner le mal par le mal. Je dis, ah bon? On est coincé dans la littérature? Très bien, alors mettons les pieds dedans et justement retissons un lien et une lecture possible, puisque mon livre s'occupe plus de lecture que d'écriture d'ailleurs. Donc Oui, donc je ne sais pas. C'est, alors peut-être que c'est une manière très amoureuse, peut-être, de travailler. Mmh. C'est de dire, ah bon, elle va pas si bien que ça, donc je m'occupe que d'elle. Et à force, je la trouve d'une vivacité.
Pourquoi dites-vous que c'est la lecture le sujet, en fait ? C'est bien la littérature, puisqu'il s'agit d'écrire. C'est même, mettez votre nom sur la couverture, nous vous trouverons un éditeur. Lettre à un jeune, qu'on lira tout à l'heure, d'ailleurs. Lettre à un très jeune poète. C'est plutôt ce texte, il s'adresse évidemment aux lecteurs que nous sommes, mais aussi à ceux qui. Ouais. Qui voudrait questionner le travail de l'écrivain. Bah,
c'est-à-dire qu'il y a un peu un vertige de pronoms personnels. On ne sait pas, il y a un on, il y a un nous, il y a un vous, il y a un tu. Je ne sais pas si vous voulez, dans ce livre, de lister les capacités de l'écriture. J'essaie plutôt de rétablir un lien de lecture et d'écriture. Aussi bien d'ailleurs pour moi, les conseils que je donne sont aussi adressés. Les mauvais conseils, parce que j'en donne aussi des mauvais, sont adressés autant à moi. C'est un livre sur la lecture, je crois, plus que sur l'écriture, parce que... En avançant, je donne quand même quelques petits conseils, mais qui sont des conseils extrêmement simples, qui sont des conseils de position. Je donne des conseils très simples pour un écrivain futur. C'est une manière de se comporter presque comme si c'était un sport, de changer de perspective. Voilà.
Et là, vous faites du tai chi. Je décris pour l'auditeur.
Radiophonique.
William Marx, la première phrase de votre livre, c'est « La littérature est objet de scandale. Elle l'a toujours été. C'est ce qui l'a définie. » C'est plus vrai maintenant, du tout. Quand on regarde les procès, il y a assez peu de procès retentissants. Et les seuls procès qu'on a aujourd'hui, c'est les atteintes à la vie privée, parce qu'un personnage va se reconnaître dans un livre de Christine Angot ou d'Edouard Louis.
Mais c'est déjà pas mal. Moi, j'aime bien quand un livre fait scandale. Et cela me semble rassurant que la littérature fasse scandale, qu'un roman de Houellebecq, par exemple, quoi qu'on puisse en penser, puisse provoquer des interrogations et fasse parler. Il me semble que quand la littérature fait scandale, c'est à ce moment-là qu'elle existe. Vous savez, il me semble que la littérature, c'est un peu comme le pharmacos grec, c'est-à-dire que...
Le remède.
C'est un remède, mais en même temps, un bon remède a toujours des effets secondaires, et les effets secondaires sont la preuve que le médicament fonctionne. Et donc, si la littérature est un poison, et si elle gêne les gens, je trouve que ça veut dire qu'elle existe et qu'il y a quelque chose qui agit. Moi, ce qui m'inquiète, quand je parle de la littérature, c'est bien sûr pour m'en inquiéter, pour répondre à des arguments, mais c'est aussi parce que je trouve que cette haine, elle a du bon. Elle prouve qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on peut appeler de différents noms, littérature, poésie, enfin qui peut prendre quantité de noms au cours de l'histoire. Mais ce qui m'inquiète effectivement, et je le dis à la fin, c'est peut-être que la haine soit remplacée par l'indifférence. Et l'indifférence, c'est vrai qu'on craint parfois que son temps ne soit arrivé. Et ce serait le pire. À la limite, je préfère effectivement les grandes attaques parce que c'est elles qui montrent qu'il y a quelque chose qui est là. Donc c'est la haine, de cette manière, c'est le scandale qui définit qu'il y a quelque chose et qu'on pourrait appeler littérature.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui, c'est plutôt rassurant. Il y a encore du scandale, Olivier Cadio. Vous trouvez que cette définition de William Marx, la littérature est objet de scandale, c'est ce qu'il a défini. Vous la partagez, cette définition ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais préféré des scandales sur des écarts de style et d'écriture que sur des problèmes de dénonciation, de procès, de trucs, enfin qui m'emmerdent.
À chaque époque,
particulièrement, quoi. Bon, mais c'est intéressant. Le tome 2, moi, il faut que je fasse un truc sur, bon, je sais pas, le réel, non ? Parce que c'est ça aussi. Hein.
On va parler du tome 1 d'abord.
Qui nous pèse tous, c'est que la littérature et le réel se combattent. Oui. Hein, c'est un peu dans votre livre. Hein, oui. C'est-à-dire, c'est un peu une bagarre générale. Entre réel, politique et littérature, c'est très, très intéressant.
C'est-à-dire quoi ? Les écrivains veulent plus dans le réel aujourd'hui ?
Oui, maintenant, il faut absolument...
Olivier Cadio, vous parliez tout à l'heure d'élitisme, hein, d'accusation d'élitisme. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, à ce moment-là, vous citez Bourdieu, William Marx, qu'adviendrait-il de la vie littéraire si l'on en venait à disputer non ce que vaut le style de tel ou tel auteur, mais de ce que valent les disputes sur le style. C'en est fini d'un jeu lorsqu'on commence à se demander si le jeu en vaut la chandelle. Qui se bat aujourd'hui pour des questions de style ? Vous parliez de Houellebecq, par exemple, son dernier roman. La polémique, elle n'est pas sur le style de Houellebecq. Et pourtant, il y aurait des choses à dire.
Il y a des gens qui travaillent sur
le
style de Houellebecq.
Oui, exactement. Il y a des choses à en dire. Mais elle est sur l'islam, sur le sujet, sur le terme de soumission. Plus personne ne se bat aujourd'hui pour le style. Et est-ce qu'on n'est pas dans cette phrase que décrit Bourdieu ? Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là, maintenant ?
C'est-à-dire qu'effectivement, certains dans le public, certains de ces enjeux qui sont proprement littéraires, à savoir les transformations du style, paraissent effectivement des arcanes inattendues. Mais c'était déjà le cas du temps de Flaubert. Flaubert parlait de cette haine de la littérature. Or, qui s'intéressait plus au style que Flaubert ? Mais les écrivains, effectivement, les vrais écrivains, comme Olivier Cadio et d'autres, sont des gens qui font ces combat sur le style, ils le font jour après jour lorsqu'ils écrivent.
Je parle de la vie. Bourdieu parle de la vie littéraire, hein, de disputes autour du style et finalement d'une question qui mais finalement à quoi ça rime? Sans faire de jeu de mots, de se battre sur le style.
Oui,
mais c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
Parce que Bourdieu voit derrière les combats sur le style des effets de lutte de pouvoir à l'intérieur d'un champ littéraire, et lui-même est en train, là, à ce moment-là, malheureusement, de réduire l'objet ou l'activité littéraire à un simple champ de bataille d'égo qui veulent occuper une place dans un champ social déterminé. Et donc c'est une manière, effectivement, déjà de réduire la littérature à un simple prétexte, à autre chose qui serait une véritable lutte pour la domination.
Et plus à un exercice de transmission.
Et plus un exercice de transmission ou de construction de quelque chose qui aurait valeur en soi, qui serait utile. Mais le style n'a jamais intéressé grand monde, il faut bien dire. Je veux dire, les batailles sur le style n'ont rarement intéressé une nation tout entière. Ça a toujours été quelque chose qui n'intéressait que les écrivains. Il y a là, je crois, rien de nouveau sous le soleil.
Donc, que ce soit pas tant le style qui soit si important. Le style,
alors,
c'est le style, c'est, ce qui est intéressant, c'est que ça parle un livre, non? Enfin, que ça parle par des moyens de. C'est quelquefois non parler, de trouver une méthode. Et je comprends l'exaspération aussi, quelquefois, des gens qui disent ça parle pas assez, ça manque de... Bourdieu, de certaine manière, quand on faisait une revue, à un moment donné, avec Pierre Alféri, oui. Chez POL, qui s'appelait Revue de littérature générale. Oui, j'avais déjà sévi dans la... Il y a très longtemps, qui était un état des lieux, enfin, bizarre, enfin, qui d'ailleurs était un projet assez étrange, où il s'agissait, non pas de réhabiliter la littérature, mais de dire, regardez, la littérature, elle a besoin de tous les savoirs pour avancer, et aussi bien du paysagisme, de la philo.
Oui, vous aviez invité Clément, d'ailleurs.
Absolument, ouais. Des gens très, très divers, pour essayer d'intensifier le livre, mais de manière désinvolte. On disait, voyez, on peut très bien, aujourd'hui, se servir de tout ça sans être, pour le coup, élitiste, c'est-à-dire sans être des cuistres, ou alors d'être programmatique de manière tendue. C'est-à-dire, on peut faire entrer tout ça. Et Bourdieu a participé à ce projet. Et on a eu des très bonnes conversations avec Pierre Alféri. Lui, il avait une envie folle de littérature.
Mais évidemment.
Alors, c'est vrai qu'il... Bon, et on peut dire...
Alors, c'est vrai que quoi ?
C'est vrai que c'est assez paradoxal qu'on retienne que ce qui nous renvoie ce message, là, maintenant, comme quelqu'un...
Bourdieu est une personnalité divisée en elle-même. Et il ne s'insurge pas contre la littérature en tant que telle, mais contre les usages du littéraire, de la littérature,
comme
à l'école en particulier.
On va poursuivre avec vous, William Marx, et continuer à examiner si le jeu littéraire en vaut toujours la chandelle. Vous publiez La haine de la littérature aux éditions de Minimi. On y plonge tout de suite. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Alex Baupin, Profondément superficiel.
Plus le temps va, plus je me creuse. Une mine à ciel ouvert, une vraie vallée de chevreuses. Un chantier, une carrière, mais de ces fouilles, rien ne ressort. Ni fer, ni houille, ni pierre, ni or. Or, c'est peut-être moi. Le moine ou sans cervelle, la coquille de noix, vidée de l'essentiel, profondément superficielle.
Alex Baupin, Profondément superficiel, c'est le choix de William Marx. Vous publiez La haine de la littérature aux éditions de Minimi. Pourquoi ce choix musical ?
D'abord parce que j'aime beaucoup cet artiste dont j'ai entendu il y a quelques jours le dernier concert à Paris. Mais aussi parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de revendication chez lui de cette... superficialité profonde qui est une sorte d'auto-accusation, et cette accusation on l'a effectivement portée contre la littérature. On a accusé la littérature d'être superficielle, de ne pas s'intéresser aux véritables choses de l'existence, de la réalité, et de ne s'intéresser qu'aux apparences, à la forme, à la beauté. Mais c'est une superficialité profonde, et c'est Profondément superficiel qui me semble intéressant, parce que précisément il y a derrière cette revendication de la superficialité une profondeur, un sens qu'on peut aller rechercher, comme le chien de Rabelais qui va chercher la substantifique moelle à l'intérieur de l'os, et c'est ce que font les véritables amoureux de la littérature. Donc la spécialité, c'est les arguments opposés par ceux qui détestent la littérature, mais la profondeur, peut-être, c'est ce qu'on peut là y retrouver si on veut bien y chercher.
Voilà le pharmacos dont vous parliez. Alors, cette haine de la littérature, c'est un essai, c'est une enquête, c'est un récit aussi sur les attaques dont la littérature a fait l'objet à travers les siècles. C'est un remarquable parcours transhistorique, et pas du tout chronologique, hein. D'ailleurs on va et vient, c'est extrêmement documenté, on passe du Rousseau incendiaire des bibliothèques aux interdictions d'étudier la grammaire, de comment saint Thomas d'Aquin sauva la littérature, à comment Orphée fut considéré comme le premier sodomite, de Flaubert à Charles Percy Snow, qui accusa à Cambridge en 1959 les écrivains d'avoir rendu possible Auschwitz, on va en parler. Et ce livre nous dresse donc le tableau de ces attaques extérieures contre la littérature, puisqu'il y a eu des attaques intérieures, ça c'était l'objet d'un précédent livre, et veut nous rappeler, William Marx, à nous qui révérons Homère, qui le voyons comme un père fondateur, que les attaques contre la littérature ont commencé dès l'Antiquité, Héraclite disant qu'Homère méritait d'être renvoyé des concours à coups de bâton. C'est pourtant, et vous le rappelez, la muse qui parlait, et pas lui. Laède est une sorte de chaman, ce sont les dieux qui parlent par lui. Donc comment on pouvait en faire un gibier à coups de bâton ?
C'est-à-dire que pour comprendre les premières expressions de la haine contre la littérature, ou des attaques contre la littérature, il s'agit moins de haine, il faut bien se replacer dans l'esprit du temps. À savoir que le poète parlait sous le coup d'une inspiration, une inspiration de la muse, mais la muse n'était pas la compagne ou l'égérie de l'écrivain. C'était réellement une divinité, le poète était vraiment un chaman, il parlait avec une autorité. Il y avait une véritable autorité, une puissance dans la poésie. Or, il y a eu, à partir du 6e, 5e siècle, dans la Grèce antique, une véritable crise des autorités qui a abouti à la création de nouveaux discours d'autorité, en particulier des discours qui voulaient se fonder leur légitimité sur la rationalité. Ce discours, c'était la philosophie. Et la philosophie, pour se fonder, s'est trouvé un ennemi idéal, qui a été la littérature, enfin, le terme
qu'on appelait comment à l'époque
C'était les poètes, les aèdes. Du reste, il n'y avait pas vraiment de thème. En fait, les attaques sont souvent contre des poètes en particulier, contre Homère, contre Hésiode. Il n'y a pas vraiment de terme générique.
Mais dans le souvent. Système, dans la pensée grecque, comment se dire que le poète qui ne parle pas donc par sa voix propre, mais qui est la voix des muses qui sont convoquées, chante, muse, la colère d'Achille Comment comprendre que ce poète, on ait envie de lui donner des coups de bâton alors qu'il est la voix des dieux ?
Eh bien, précisément parce que il y a cet autre discours qui veut se poser à l'intérieur de la cité. Et il veut se démarquer donc des discours préexistants, des autres discours d'autorité. Et par exemple, prenons
un discours révolutionnaire, alors.
Oui, prenons le cas de Platon. Platon, dans la République, attaque deux discours d'autorité. Il attaque d'une part le discours de la loi dans la cité, et donc dans la République, il s'agit de refonder entièrement la cité en refondant rationnellement les lois de la cité. Et puis il attaque un autre discours d'autorité qui est le discours de la haie, du devin, pour dire qu'en fait, la vérité n'est pas prononcée par Homère qui était l'instructeur de la Grèce, disait-on à l'époque, mais elle doit être dans les mains des philosophes.
Précisément, j'aimerais qu'on vous entende lire un passage de la haine de la littérature. C'est ce passage qui concerne, il y en a plusieurs, mais qui concerne Platon.
La littérature, c'est ce qu'on exile, car après Héraclite vint Platon, resté dans la mémoire collective comme le plus grand exileur de poètes de toute l'histoire de l'antilittérature. Sur le papier, cela va de soi, on ne rapporte pas qu'il eût lui-même procédé à de massives déportations, sans doute n'en eut-il pas l'occasion. Exprimer la condamnation de la poésie sous la forme de l'exil, c'est, dans la Grèce antique, montrer que la question est éminemment politique. Il s'agit d'une affaire de pouvoir. Qui, dans la cité idéale conçue par Socrate, sera le plus à même de l'exercer ? Le livre 5 de la République fournit la réponse. Le philosophe. Comparé à lui, le poète n'est qu'un dangereux charmeur. Je cite « Sans doute, si un homme habile à prendre toutes les formes et à tout imiter se présentait dans notre état pour se produire en public et jouer ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, ravissant, mais nous lui dirions qu'il n'est pas d'homme comme lui dans notre état et qu'il ne peut y en avoir, et nous l'enverrions dans un autre état après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes. » Fin de citation. Procédure plus courtoise que les coups de bâton d'Héraclite, quoique, à la douleur physique près, le résultat soit le même. Le poète n'a pas droit de citer dans la cité parfaite. Et s'il est envoyé dans l'état voisin, c'est comme un agent pernicieux susceptible d'affaiblir l'ennemi. Voilà une utilité de la poésie à laquelle ses adversaires d'aujourd'hui sont loin de songer, comme arme de séduction massive. Encore faut-il pour cela, comme Socrate et comme Platon, croire en son pouvoir. Il ne chasse pas les poètes parce qu'ils seraient inutiles, mais en raison de leur nocivité. Non tous les poètes, toutefois, car juste après cette mise à la porte pleine d'ironique prévenance, Socrate admet l'utilité d'un autre type de poésie. Je le cite. « Quant à nous, il nous faut un poète et un conteur plus austère et moins agréable, mais utile à notre dessein, qui n'imiterait pour nous que le ton de l'honnête homme et conformerait son langage aux formes que nous avons prescrites dès l'origine en dressant un plan d'éducation pour nos guerriers. » Fin de citation. Ainsi, y aurait-il un autre type de poésie, autorisée par l'État, ayant sa place dans la formation civique et militaire? La question n'est que celle du pouvoir et de l'autorité. Les mensonges de la poésie sont dangereux, non parce que tout mensonge le serait, mais parce que tout mensonge l'est quand il n'a pas l'État pour auteur. La cité seule a droit de mentir et le mensonge est trop précieux pour être laissé dans les mains des poètes.
Vous voyez, Olivier Cadio, c'est l'arme de séduction massive, voilà. Et pas de destruction massive. Oui. Mais en fait, la littérature officielle naît chez Platon.
L'idée Elle naît d'un... chez Platon. Ouais. Platon a l'idée de la littérature soviétique, de la littérature sulpicienne. C'est cela qu'il veut.
Il
veut une littérature qui soit sous la coupe, effectivement, du pouvoir. Elle sera autorisée, effectivement. Mais le poète libre qui va de cité en cité, non, pas du tout.
Alors, le principal vice que l'on reproche à la littérature, ou à la poésie, hein, puisque le poète est la figure de la littérature à cette époque, dans l'Antiquité, c'est d'être en deçà de la vérité, ou à côté.
À côté de la vérité, ou quand il raconte une vérité sur les dieux, par exemple que les dieux commettent des adultères, etc., c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. En général, le poète ment, et même quand il dit la vérité, cette vérité n'est pas bonne. Donc vraiment, son travail est à mettre de côté.
Et ça, ce qui est amusant, enfin amusant, tragique aussi, et qu'on retrouve dans votre texte, c'est que année après année, siècle après siècle, c'est toujours la même idée. Par exemple, vous citez le cas d'un certain Gregory Curry, philosophe anglais contemporain, je crois que c'est un texte des années 80, qui accuse...
Des années 2000.
Dans le TLS, le Times Literary Supplement, qui accuse les romanciers d'être de mauvais psychologues. Et qui réouvre le procès de la littérature au nom de la vérité. C'est là où le bât blesse, en fait, la littérature est toujours un discours illégitime par excellence, ne se fondant sur rien, et c'est ça qu'on lui reproche.
Non mais les arguments, c'était effrayant. Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'ai commencé à répertorier l'ensemble des discours, et je me suis retrouvé avec un ensemble de discours extrêmement ressassants, répétitifs, depuis 2500 ans. Ce sont toujours les mêmes arguments depuis Platon. Tous les arguments se trouvent à peu près chez Platon, à quelques exceptions près. Et effectivement, même dans les années 2000, les philosophes... Certains philosophes cognitivistes reprochent aux romanciers psychologues comme James et Proust de proposer, disent-ils, une psychologie de pacotille qui ne correspond pas aux dernières avancées de la psychologie behavioriste ou comportementaliste. Ce qui est en fait absurde. En fait, quand on regarde attentivement James et Proust, on se rend compte que même ces avancées de la psychologie expérimentale, quand on lit bien Proust, eh bien on les voit. C'est-à-dire quand on voit par exemple comment une tasse de thé ou une tasse de tilleul dans laquelle on trempe une biscotte provoque chez Proust, simplement par un effet purement des sens, provoque une sorte de bonheur, d'anamnèse, etc. On voit bien ici quelque chose de l'ordre du comportementalisme. Mais ce philosophe cognitiviste, en fait, est totalement aveugle à cela. Il est aveuglé par cette, entre guillemets, haine de la littérature qui l'amène à ne lire les textes que par le petit bout de la lorgnette.
Olivier Cadio.
En vous écoutant, je me disais, ce qui est amusant, c'est que je pense que les écrivains peuvent avoir l'inverse, avoir l'amour de la philosophie, par exemple.
Mais évidemment.
Moi, j'ai plus envie de lire de la philosophie que de la littérature parce que j'y trouve, non pas confirmation de ce que je fais, ce serait prétentieux, mais j'y trouve une zone de pensée ou d'agitation. C'est vrai que quand je lis, je sais pas, Bruno Latour, là, sur les modes d'existence, là, son dernier livre, ou Benjamin, évidemment, parce que c'est le grand exemple, ou un grand Ben, j'ai l'impression de partager avec eux quelque chose d'étrange, c'est-à-dire une zone, je dirais pas de travail, mais de joie. Conceptuel.
C'est-à-dire que la littérature serait plus tournée vers la philosophie et la réciproque ne serait pas vraie.
Il y a qu'eux qui parlent très bien. Je veux dire, il y a que les philosophes qui parlent très bien la littérature. Si on regarde, bien sûr. Enfin, je veux dire, les plus beaux textes. Par exemple, un texte magnifique d'Agamben qui s'appelle Stanze, par exemple, sur la respiration. C'est certainement l'un des plus beaux textes que j'ai pu lire sur la poésie. Donc il faut aussi. Moi, je prendrais la position inverse, je dirais, l'amour de la pensée. Chez un écrivain, c'est très important parce que du coup, il y a une sorte d'utopie conceptuelle. Alors, je sais pas si on lit, alors même un neuro, vous parlez de Proust, si on... Si, on va chercher des exemples.
Neuroscientifique.
Oui, à la limite, on peut. La littérature a besoin de se nourrir de toutes ces merveilles. Je vous laisse parler, parce que.
Mais évidemment. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre toute la philosophie dans le même sac. Et il y a énormément de philosophes qui s'intéressent et qui parlent magnifiquement de la
Nietzsche,
littérature.
Nietzsche, le premier. Et
Nietzsche, bien sûr.
D'ailleurs, considéré parfois pas comme un philosophe à cause de ça.
Bien sûr.
De son goût et de son goût pour la littérature.
Ce que je dis simplement, c'est que.
Et de sa haine aussi pour certaines littératures. Attention.
Bien sûr. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'à l'origine de la philosophie, il y a ces discours contre la poésie. Mais ce que vous dites, en fait, Olivier Cadio, c'est simplement que vous, en tant qu'écrivain, vous vous nourrissez, et c'est tout à fait normal, de la pensée des autres. C'est-à-dire, vous nourrissez des sciences humaines, vous nourrissez des philosophes, vous nourrissez des scientifiques même, j'imagine, etc. Bon, et les écrivains, la littérature ne fait que cela. C'est-à-dire qu'elle ne fait que reprendre de la pensée et penser elle-même, parce qu'il y a de la pensée, il y a du savoir dans la littérature. Le seul problème, c'est que ce savoir est considéré parfois comme étant illégitime. C'est-à-dire qu'il y a quantité de choses que fait la littérature, mais ses actions sont considérées souvent comme étant de l'ordre de l'illégitime, quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire, parce qu'elle n'est pas fondée à le faire.
Plus grave que ça, William Marx, parce que l'illégitimité, très bien, on comprend bien. Le poète, chez Platon, bon, il est renvoyé, il n'est pas brûlé, ni tué, il est exilé, il est quand même parfumé et couronné de bandelettes, donc on lui reconnaît quand même un prestige. Mais vous citez un certain Monsieur Snow. Alors, Monsieur Snow, il écrit en 1959, il écrit que les écrivains sont responsables. Enfin, il se pose la question, est-ce que l'influence de tout ce qu'ils représentent n'a pas contribué à rendre Auschwitz possible ?
Bien sûr. Bien sûr. Non, mais cette histoire est absolument étonnante. Charles Percy Snow est quelqu'un qui n'est pas connu en France, mais qui est immensément connu dans le monde entier, en particulier dans le pays anglo-saxon, précisément pour cette conférence qu'il a faite à Cambridge en 1959, les deux cultures, the two cultures, et à savoir la culture scientifique et la culture littéraire. Il s'agissait pour lui de réhabiliter dans l'éducation la culture scientifique contre la culture littéraire qui a été considérée comme une culture traditionnelle. Bon, c'est tout à fait normal, effectivement, qu'il y ait une culture scientifique qui soit prodiguée aux étudiants et aux citoyens d'un pays. Mais pourquoi le faire comme le fait Snow, non pas à côté de la culture littéraire, mais contre cette culture littéraire? Et effectivement, ce texte de Snow, cette conférence, a eu un énorme succès dans le monde entier. Ça a été cité par Kennedy dans sa campagne électorale. Mais c'est un ensemble d'accusations qui nous paraissent totalement absurdes.
Est-ce qu'Adorno
accusait la littérature de tous les maux?
Adorno ne dit pas autre chose. La célèbre phrase d'Adorno qui prétendait qu'écrire un poème à Auschwitz, c'était barbare.
C'est
phrase qui veut tout dire et son contraire.
C'est beaucoup plus complexe. D'abord, ça se situait juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un moment de désespoir d'Adorno par rapport à ce qu'il appelait la critique de la culture, la capacité critique de la culture vis-à-vis des événements. Et lui-même a réfuté quelques années après.
Exactement.
Elle est très mal comprise. Il faut vraiment la prendre dans son contexte. J'en ai beaucoup parlé dans l'adieu à la littérature.
Mais les gens s'en servent. Ceux qui sont dans la haine de la littérature s'appuient sur cette phrase, avec toujours l'idée que le poète est celui qui est à côté de l'essentiel, qui pense aux petites fleurs, alors qu'il y a des sujets plus graves. Je vais parler de lui, parce que c'est l'une de vos cibles. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu, William Marx, quand vous reprenez cette histoire de Nicolas Sarkozy et de la princesse de Clèves, qui était devenue quand même un symbole, parce que dans certains concours, il fallait répondre à des questions sur la princesse de Clèves, et lui pensait que ce n'était pas utile. Est-ce que ce n'est pas toujours au centre de ces attaques contre la littérature, contrairement à ce que vous disiez, Olivier Cadio, que la littérature pense et se sert du monde réel, que la littérature est déconnectée du réel, illégitime parce qu'elle est à côté, parce qu'elle est dans la cosmétique, la beauté, et pas du tout dans l'essentiel des choses?
Oui, cela dit, vous admettrez que Sarkozy, par rapport à Snow, est quand même un dégré au-dessous, parce que Snow non seulement disait que les écrivains étaient illégitimes, mais en plus qu'ils avaient provoqué Auschwitz, ce qui était quand même assez incroyable.
Oui, c'est dur d'aller au-delà.
Même Nicolas Sarkozy n'est pas allé jusque-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a sans cesse un débat depuis un certain nombre d'années sur la place de la littérature dans la culture qui est donnée aux citoyens et sur la place qu'elle occupe dans la construction d'une culture commune et d'une culture citoyenne. Et c'est vrai qu'on peut avoir un véritable débat sur la question de bon, est-ce qu'il faut qu'une secrétaire administrative connaisse l'existence de la princesse de Clèves, mais en même temps, il faut bien que quand on est fonctionnaire ou quand on manière générale, hein, quand on travaille au contact avec le public, il est important d'avoir un langage commun. Bien sûr. Mais il est important aussi d'avoir des références communes.
Vous dites, le temps n'est pas loin, William Marx, où la lecture obligatoire des chefs-d'œuvre sera bannie par les conventions internationales comme traitement inhumain et dégradant.
Bah, ça correspond à cette phrase assez étonnante où Nicolas Sarkozy essayait de faire pleurer son public en disant vous rendez compte, on oblige ces pauvres gens, ces petits fonctionnaires à lire des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est comme la princesse de Clèves. C'est quand même assez sidérant qu'on en soit tombé là. Mais bon.
Alors, il exagère, mais vous aussi, William Marx, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin quand vous dites homophobie et anti-littérature, même combat?
Non, alors ça c'est quelque chose...
Olivier Cadio opine.
Oui, c'est vrai, non, ça c'était très beau passage. Ça,
c'est quelque chose dont je me suis rendu compte et qui m'a moi-même surpris, c'est-à-dire qu'à partir du 15e siècle, il y a une sorte de congruence des arguments contre l'homosexualité et contre la littérature, avec une figure centrale qui est la figure d'Orphée. Hein. Alors ça commence à partir du 15e siècle parce que précisément ça correspond aussi à l'histoire de développement de l'homophobie, une autre...
Orphée était pourtant avec Eurydice, enfin moi c'est ce qu'on m'a
justement,
appris.
Justement, ce que raconte Ovid, c'est que Orphée ayant perdu Eurydice définitivement, par dépit, s'est détourné des femmes et s'est retourné vers les hommes. Donc Orphée, historiquement, dans la mythologie, est le premier, lorsqu'on appelait, on disait pas homosexuel, on disait même pas sodomite dans l'Antiquité, mais enfin, voilà, c'est le premier à aimer les hommes.
Éraste ou Éromène?
Éraste plutôt.
Éraste plutôt. Alors, dans quelle tradition, dans quel texte de...
Alors, c'est Ovid dans les Métamorphoses qui raconte cela. Mais ça a été repris à partir de la fin du Moyen-Âge et ça a été repris beaucoup, donc, jusque dans au XVIIe siècle, chez les moralistes chrétiens, qui ont fait le lien entre, d'une part, l'idée que Orphée était le premier, c'est le terme employé, sodomite, et aussi, c'était aussi historiquement le premier poète, c'est le prince des poètes. Donc, la poésie a quelque chose à voir avec l'homosexualité. Et, fondamentalement, il y a quelque chose de, entre guillemets, de vrai là-dedans, c'est-à-dire que ce qu'on reproche à la poésie, c'est sa stérilité. C'est-à-dire que l'idée que le poète fait un travail stérile qui ne sert à rien, à la différence des vrais discours moraux, philosophiques et ceux qui engendrent de la vérité. La poésie est un discours en l'air, comme les homosexuels qui, paraît-il, voilà, sont entièrement stériles, ne servent à rien dans l'humanité.
Olivier Cadio, vous...
Moi, je suis bouche bée. Non, une remarque pour revenir avant ce que vous disiez. Peut-être que la question, c'est si on voulait défendre la littérature aujourd'hui, peut-être, si on voulait la défendre, alors il faudrait peut-être non pas défendre le style ou l'écriture, parce que c'est sans fin si on défend. Par rapport à ce que vous venez de dire, si on défend l'écriture, la beauté, l'élégance, par rapport à, comme ça, une parole scientifique, réelle, politique, engagée, etc. Non, je crois qu'au contraire, il faut aussi à tout prix de dire que la littérature pense. Mais avec des moyens spécifiques. C'est plutôt, c'est un peu le projet.
Eh ben voilà.
Est-ce
qu'il
y a de la pensée dans la littérature?
Eh oui.
Et quels sont plutôt, non pas que la littérature serait le cache-pot d'une pensée sous-jacente, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens spécifiques de penser et donc dire la littérature est très utile.
Elle pense par le langage.
Par le langage, et alors voilà, donc on le sait, hein, depuis Diderot, puis ça va.
Olivier Cadio, on écoute votre choix musical. Rodolphe Burger, avec qui vous avez travaillé. Donc Burger plus Cadio plus Gilles Deleuze.
C'est l'autopromotion.
Là, ça s'appelle Je nage, ouais. On écoute.
Alors je plonge au bon moment, je ressors au bon moment. J'évite la vague qui approche, au contraire, je m'en sers. Je me lance. J'ai nagé, j'ai volé. Quoi, je sais nager. J'ai nagé, j'ai volé. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. J'ai une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire, le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que... Ça veut dire le rythme. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça?
On peut continuer d'ailleurs à écouter tout bas, Olivier Cadio, votre choix musical. C'était la voix de Gilles Deleuze. C'est un travail de Rodolphe Burger et de vous, Olivier Cadio. Ça s'appelle « Je nage ». C'est Deleuze qu'on entendait.
On a fait une série de disques comme ça où on s'est parce que je suis pas parolier de chansons, je suis pas très doué pour les paroles au fond. Je suis pas assez poète pour faire des paroles. Si, c'est un métier très particulier, parolier. Non, là, c'était très, très excitant. On a fait une série de disques. Cette chanson a été extraite d'un disque qui s'appelle Hôtel Robinson. Et on en a fait un dernier qui s'appelle Psychopharmaca.
Antidépresseur. C'est donc, très marxien. Enfin, oui, c'est ça, William
c'est
Marxien.
C'est pour ça que je dis. C'est, le pharmacien. C'est très marxien. Et non, c'est très, très. On avait commencé en mixant la voix de Jack Spicer, qui est un poète américain que j'aime énormément. Et on s'est amusé à faire des morceaux. Enfin, amusé, je sais pas. À faire des morceaux, au fond, à essayer de faire danser les gens. Avec des voix d'archives. C'est-à-dire ce qui est. On fait aussi, dans le dernier, on a pris la Oursona de Schwitters, par exemple, qui est vraiment un monument, comme ça, presque. Mais qui a un côté presque un peu funèbre si on l'écoute. Et on remet finalement des voix aimées. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Parce que peut-être que. Bon, c'est peut-être aussi cette manipulation de voix aimées, de fantômes. Enfin, c'est peut-être ça que j'essaie de faire un tout petit peu dans un livre. Dans ce livre, je ne sais pas.
Vous
c'est
sentez
pas
bien.
Si loin que c'est un étrange bonheur.
C'est ça.
Voilà. C'est... Bah ça, c'est le célèbre cours de Deleuze sur Spinoza où il décrit le premier genre de connaissance. Il fait la littérature. Parce que pour décrire le choc de la connaissance, le premier choc, bah, il fait une métaphore, une comparaison. Et il dit voilà, bah, c'est comme la vague. Et il le fait de manière absolument sidérante. Et c'est vrai que c'est très beau d'aller prendre chez un philosophe. Ah ben finalement, vous voyez, ça fait là. C'est ça, l'amour de la philosophie.
Hein, exactement.
On réconcilie. Prendre ce trésor et l'emmener un peu dans un autre territoire. C'est
voilà. Alors, vous nous emmenez dans un autre territoire, dans votre tête, dans votre travail d'écrivain, dans la littérature, un peu partout, dans la vague aussi, dans la vague et le détail. Vous en parlez, Olivier Cadieux, dans cette histoire de la littérature récente, tome 1, chez POL, livre court. Très drôle, qui pose plein de questions, qui se présente donc par son titre comme une histoire, mais par sa quatrième de couverture comme une méthode révolutionnaire, dites-vous.
En italique.
En italique, pour apprendre à écrire en lisant, hein, je vous cite. Bah. Donc tout un programme. Ça, c'est pour les présentations, car quand on ouvre, quand on se plonge dans ce livre, on découvre tout autre chose. 61 petits textes entre la réflexion et le souvenir personnel, le questionnement de votre pratique d'écrivain et la quasi-fiction hein, sur ce que vous percevez de l'état actuel de la littérature. Et au centre de ce livre, une idée, un cri, un appel en tout cas à la rébellion contre un certain déclinisme, déclinisme littéraire, hein, la littérature serait finie, entend-on. La coupe est pleine, on va se rebeller, écrivez-vous, ça ne peut plus durer cette histoire de fin. Et pourtant, vous dites aussi, Olivier Cadieux, cette histoire de déclin, ce sont aussi les gens qu'on aime qui nous l'ont soufflé. L'heure de la révolte a sonné, y compris contre les gens qu'on aime et qui vous soufflent cette drôle d'idée.
Non, je crois que c'est parce que j'ai mal lu aussi pas mal de philosophes, je pense. Et j'ai été attiré, je pense que je faisais partie des pleureuses. Et j'ai beaucoup lu aussi, à un moment donné, de la philo pour pleurnicher. Mais c'est un mur de lamentation, la pensée, aussi. Mais tendre. C'est-à-dire que je pense que j'étais moi-même... quand je lisais Minima Moralia de Adorno, pour reprendre... Voilà, je l'ai lu avec amusement, détachement, mais aussi avec une certaine mélancolie. Et au fond, c'est peut-être cette lecture-là qui a changé chez moi. J'ai changé de point de vue, j'ai changé de manière de lire. Sans doute, oui.
Vous citez un universitaire, alors qui n'est pas William Marx, qui dit, bah voilà, la littérature, elle est au ciel.
Oui.
Et puis c'est bien comme ça. Qui intéresse que la littérature ait une fin et aille au ciel?
Je ne sais pas. Là, c'est vrai que dans le tome 1, ça m'a amusé de prendre ça comme point de départ. Parce qu'au fond, je me sers de cette citation assez célèbre de Proust, enfin cette citation, cette comparaison de Proust qui dit « La littérature se construit comme une robe, se prépare comme une robe ou comme une guerre », ce que je trouve une beauté incroyable. Et je pense que j'étais plutôt en guerre, moi, jusqu'ici. D'ailleurs, comme jeune poète, c'était essentiel d'être en guerre. Contre soi-même, contre les autres, il y a eu des guerres absurdes, on va pas en parler là, dans les années 90, comme ça, entre des courants poétiques, mais d'une violence qui sont presque amusantes avec maintenant le recul. Non, et c'est vrai que j'ai plus envie maintenant de m'occuper des robes, ou me coller sur les plis de la robe que...
C'est deleuzien.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. J'ai envie, encore une fois, de m'approcher du problème, de mettre les pieds dans le plat, je sais pas comment dire, de faire un travail assez myope, pour peut-être aussi, n'ayant plus de contrat fictionnel, ne faisant pas de roman comme mon précédent, même si mon précédent traitait beaucoup de, un peu de la situation de, justement des années 80, du modernisme, enfin. À la vérité, je crois que je serais un très mauvais historien, donc je suis en train de lire ce livre, il faut pas le lire.
Non mais c'est pas vraiment une histoire, on va vous entendre d'ailleurs le lire, oui. Olivier Cadieux. J'ai choisi Save the Date, donc c'est l'un des texticules, je ne sais pas comment on dit, des petits textes. Des petits textes. Hein. 61, il y en a.
Recopier, l'idée est tentante. On comprend les Mormons, même si on n'est pas toujours prêt à creuser des chambres fortes sur une profondeur de près de 150 mètres dans le granit, pour y déposer des millions de microfilms répertoriant l'état civil de l'humanité entière. Si on pouvait donner son avis sur une entreprise pareille, on leur conseillerait d'y entreposer autre chose que les dates de naissance et de mort de chaque personne posant le pied sur le continent américain. Des détails de la vie, des échanges, des lettres, des photographies, des embryons d'histoire, des localisations sur la carte et noms de lieux, ce serait plus généreux. Et puis recopier, pourquoi faire? Il faut pas exagérer, la littérature c'est quand même pas la vraie vie. Une divinité qui voit tout, un livre transparent, une immense éponge, ce n'est pas si enviable de devenir Dieu. Même Maradona est celui d'une église. À la fin du Notre Père, le mot « Amen » est remplacé par « Diego ». Oublions les dieux et les disciples. La route parallèle que vous avez construite à côté de celle que vous empruntez tous les jours n'est pour aucun usager. Elle n'a pas plus besoin de vous qu'une statue antique enterrée sous 10 mètres de sable. Vous risquez de faire de l'art pour rien. Avant de se lancer dans l'écriture, qui peut vous faire perdre des années précieuses, il faudrait faire une petite étude. Ne foncez pas à l'aveuglette dans les ruines. Ce serait une erreur de se consacrer à des statues enfouies au moment où personne ne veut plus être archéologue. Un grand écrivain américain prédisait récemment que dans 30 ans, sinon avant, il y aura autant de lecteurs de vraie littérature qu'il y a aujourd'hui d'amateurs de poésie en latin. Pourquoi pas? Gros travail de se plonger dans les arcanes de l'hexamètre dactylique. Quelle satisfaction! Si on arrive à scander la chose selon les règles, ça trace, ça pulse, ça crépite, ça va remplacer le rap. Lecture intégrale ce soir des bucoliques de Virgile, performés. Venez nombreux. C'est idiot de devenir un poète latin au moment où l'on abandonne les langues anciennes. Il vaut mieux être mort que démodé, disait un écrivain anglais d'autrefois. Pensez-y avant d'embrasser la carrière.
Voilà, merci Olivier Cadio pour Save the Date, hein. Histoire, c'est un extrait de votre histoire de la littérature récente. Il y a 61 petits textes comme ça, et précisément, on sent bien à vous écouter que on ne sait pas quoi penser. On adore, c'est très drôle, mais on se dit, est-ce qu'il est en train de déplorer? Lui, c'est formidable, la poésie bucolique rappée, performée, va faire se déchaîner les foules. Et puis finalement, pensez-y avant d'embrasser la carrière. Est-ce qu'on est dans la mélancolie? Est-ce qu'on est dans l'optimisme? Est-ce qu'on est dans les deux? C'est quoi ces textes?
C'est très embêtant parce que je ne sais pas tellement comment répondre. Justement, c'est les deux mélangés. C'est vrai qu'après tout, si on regarde sur la performance, il y a des gens remarquables. Anne-James Chaton, par exemple, qui fait des performances où il a lu pendant des années tous les chiffres qui étaient écrits sur les tickets de train qu'il prenait, par exemple. Et qui arrivait avec ça, rythmiquement, à produire un effet exceptionnel. Par exemple, Bernard Hitzig, grand poète sonore, qui enregistre les bruits de la chaussée d'Antin. Donc, au fond, au moment où je dis ça, attention, ça va être une catastrophe, cette histoire de au moment où Philippe Roth est très triste, moi non, je dis après tout, le latin, c'est pas si mal. Non, j'essaye de faire tourner les problèmes. Voilà, j'essaye en fait de les faire un peu tourner, et chaque petit texte fait tourner. Je sais pas comment dire. Je suis obligé de faire un geste pour ça. C'est comme si on voyait le problème de l'autre côté. On voit le problème de dos. Encore une fois, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que si on voulait absolument défendre la littérature, alors ce serait sur le plan de la pensée et non pas sur le plan de l'écriture. Paradoxalement. Donc, je dis là simplement, sans devenir philosophe, je dis la littérature. Regardez, ça pense. C'est contradictoire. C'est complexe. Ça travaille. C'est ça que je veux exposer, au fond.
Est-ce qu'il n'y a pas une charge, quand même, contre une certaine littérature récente, hein, puisque, après tout, le titre est Histoire de littérature récente. Dans ce « Vous voulez tout dire », c'est ça qui vous pousse, toutes vos histoires roulées en boule dans un sac, tous vos mots non dits, le côté « faut tout lâcher », quoi. Voilà, c'est tripes sur la table.
Mais là, si vous voulez, c'est très compliqué, parce que, comment dire le contraire? On ne peut être que d'accord. La littérature, ce qui est merveilleux, c'est quand elle déchire dans tous les sens du terme. Elle déchire le style et que tout d'un coup, ça parle, quoi. Et donc, évidemment, commencer à dire non, il faut arrêter d'être. Bien sûr qu'il n'y a que l'autobiographie qui est intéressante aussi au fond, mais laquelle? C'est juste ça que je veux. Ce qui me pose problème, c'est quand on se sert, par exemple, de l'autofiction pour dire, voilà, maintenant, ça y est, on est passé, l'illisible, c'est kitsch, etc. On est passé à une autre époque, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les témoignages. En même temps,
par exemple,
l'un des plus beaux textes que j'ai vu, par exemple, Charles Reznikov, grand poète américain, par exemple, il découpe à la fin du siècle du 19e siècle, il prend les minutes des procès américains et il fait un cut-up, enfin, il découpe, et on a un truc ultra simple, comme ça, une sorte de chronique de la vie quotidienne. Eh ben, Voilà, donc c'est un découpage sur le réel. Il n'y a pas de style, il n'y a pas d'écriture, si vous voulez, au sens où on l'entend. Mais ça parle avec une très très grande puissance. Donc au fond, j'essaie de troubler l'affaire.
Oui. En tout cas, il y a un texte que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais que vous nous le lisiez pour terminer cette émission. Puis je demanderai à William Mars ce qu'il en pense. J'ai dit William Mars comme le dieu.
Vous voyez ?
Voilà. J'ai dit William Mars, ça vous va bien, William
c'est
Mars.
C'est le dieu de la guerre. Hein,
c'est le dieu, voilà, de la guerre. Et il faut trouver le dieu de la robe. Hein, la guerre et la robe, comme disait Proust. Lettre à un très jeune poète, Olivier Cadiot.
On est quand même obligé d'apprendre. Désolé. Mais ne vous inquiétez pas. On n'est pas obligé pour autant de rester bon élève ad vitam. Même pas une seconde. Mais quand même, un petit effort, allez. Une petite formation, un petit CAP, rien du tout quand même. Regardez, c'est pour tout le monde pareil. Un type veut dessiner des voitures. C'est ma vocation. Bonne idée. Mais il a regardé attentivement les courbes des calèches. Caressé des centaines de pare-brises de Jaguar type E. Établi des algorithmes raffinés pour choisir les angles de cette robe d'aluminium que forme une carrosserie. Il a observé la chose, il s'est consacré. Enfin, le type qui découpe un bœuf, pareil. Il révise avant. Et celui qui lave les carreaux sur l'Empire State, il a fait ses classes, comme tout le monde. Mais on ne vous demande pas de revenir à l'école, pas d'inquiétude. On ne vous demande pas de devenir scolaire. Remettez à demain l'écriture. C'est toujours à refaire. Mais pas tout de suite, tout va bien. Il y a un délai, et pas des trous à remplir. Ce n'est pas un manuel. Pas d'évaluation, de quiz, de casse-tête avec losange et polygone. C'est à refaire, mais pas maintenant. Respirez. Remettez à demain, chaque jour, le travail à accomplir. Il s'inscrira malgré vous quelque part. Il s'agira juste de ramasser. Aujourd'hui, c'est vacances. Ne rédigez pas tout de suite vos idées. Enterrez-les. Il paraît que même enfermées dans des boîtes métalliques hermétiques, les sardines s'améliorent en vieillissant. On essaye tous désespérément de comprendre. Et tour à tour, chacun d'entre nous passe par plusieurs états que ce livre a pour fonction d'étudier et de résoudre, pour vous faire gagner du temps. Vous ne comprenez pas où ça va? Mais bon Dieu, où voulez-vous aller? Vous avez peur de craquer? Vous avez peur que ça dure toujours, cette angoisse? Calmez-vous. On perd la main, et puis on la retrouve. Des phrases simples qui ont été plongées entre-temps dans une sorte de métal apparaissent à la surface. Elles reviennent d'un bouillon, d'un œil noir, d'un nuage, d'un corps en fusion. On dirait un nouvel alliage. C'est étonnant, elles sont flexibles et tranchantes. Qui disait « Attention, la nature va parler ». Il faut garder les phrases qui, si rarement en plein jour, vous arrivent ciselées comme des paroles de rêve. Du passage par un tunnel mystérieux, le brouillard dissipé, on en garde des petites traces. C'est comme si les choses du jour conservaient des petits accessoires de la nuit. On rencontre quelqu'un et, dans ses boucles d'oreilles, se révèle brusquement un petit détail. Une pince, de crabe ou de bureau. Ce sont des problèmes et ces questions qui forment un livre. Les essais et les erreurs s'accumulent. Un livre malgré nous.
Merci Olivier Cadiot. Histoire de la littérature récente, c'était votre lettre à un très jeune poète. William Marx, tout n'est pas perdu quand on écoute ça.
Non, il me semble qu'il y a deux types d'écrivains. Et il y a les écrivains agriculteurs et il y a les écrivains chasseurs-cueilleurs. Et Olivier Cadiot fait partie de la deuxième catégorie. On l'entend, il est à l'affût des termes. Il y a une sorte de geste, en fait, de la littérature qui est celui d'attraper le réel, d'attraper des petits bouts comme cela de fragments. Je trouve que ça sera très beau. On pourrait dire aussi, il y a l'image du boucher qui découpe le bœuf, qui est une image taoïste, en fait. Hein. Olivier Cadiot fait partie des écrivains taoïstes et non pas des écrivains confucianistes. C'est pas des gens qui creusent, etc. Mais c'est des gens qui parcourent.
Ça vous va?
Ah, c'est parfait.
Le chasseur-cueilleur taoïste.
Ah ben, c'est bon pour mon tome 2.
Voilà. Très bien.
Je commence comme ça.
Puisque vous commencez, vous êtes dans le tome 2.
Voilà.
On est impatients. On vous recevra à
Merci.
Nouveau, Olivier Cadiot. Et alors, Tom, après l'adieu à la littérature, la haine de la littérature, il y a quelque chose de prévu, William Marx?
Il y a des choses prévues, mais on en parlera quand ce sera.
Le retour, très bien. Le retour, non?
Très bien.
Il est déjà revenu.
La littérature est revenue. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Olivier Cadiot, pour Histoire de la littérature récente. C'est chez POL. C'est le tome 1. Donc, le tome 2 est en cours d'écriture. Et William Marx, La haine de la littérature. C'est aux éditions de minuit. Merci beaucoup d'avoir été mes invités.
Merci.
Dans le temps des écrivains. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et à la technique Valérie Lavalard. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. Cette émission sur la mort de la littérature qui n'est pas morte. Voilà, on a essayé de la ranimer pendant cette heure. Je vous retrouve dès lundi pour une autre émission, Le temps des libraires à 10h55.